Bonjour, bienvenue à l'émission C'est classique. Mon nom est Chantal Lavoie. Une autre belle demi-heure devant nous. Je reçois aujourd'hui le violoncelliste Stéphane Tétrault, grand musicien de chez nous qui, dès son plus jeune âge, s'est fait remarquer tant ici qu'à l'étranger et qui, au début de 2012, donnait son premier récital en entier avec son fameux Stradivarius de 1707, acquis par une mécène de chez nous et mis entre les mains de ce violoncelliste d'exception. Il aura beaucoup de choses à raconter, mais d'abord, écoutons-le en compagnie de l'Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabelle, un extrait du Cygne de Camille Saint-Saëns. J'accueille aujourd'hui le violoncelliste Stéphane Tétrault. Bonjour Stéphane.
Bonjour Chantal.
Merci d'être ici avec cet été qui est très, très chargé pour toi, hein, quand même.
Quand même, mais c'est un bel été. Oui, je suis occupé. Oui, je tombe en vacances à la fin août. Ça va faire du bien, mais en même temps, ça a été un été tellement riche en rencontres, en collaboration, tout en musique. Là, ça, j'ai été occupé, mais avec tellement de projets passionnants que vraiment, je me sens très stimulé.
Oui, hein, c'est ouais. Ça. Parce que, puis l'avantage aussi avec vous, les musiciens classiques, c'est que vous pouvez vous mouler à autre chose aussi. Hein.
On essaye.
N'est pas fait pour un autre musicien qui est peut-être dans un autre, musicien plus populaire, va avoir peut-être un peu plus de difficultés forcément à faire le contraire. Tandis que toi, tu as l'effet Lisa, justement, c'est autre chose. Été complètement différent. Théâtre musical inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins. Alors ça t'occupe énormément parce qu'il y a beaucoup de dates de concerts, mais on y reviendra, de dates de spectacles. Là, ce qu'on écoutait, c'est quand même ton premier album avec l'Orchestre symphonique de Québec, oui, dirigé par Fabien Gabelle. Et là, tu disais, oh, ça fait longtemps, ça. Alors, évidemment, j'imagine que tu es critique toujours par rapport à toi
quand tu écoutes des... Mais je pense que c'est toujours le cas avec les artistes. Là, je pense que juste le fait dans la vie qu'on aime moins entendre sa propre voix quand on se réécoute, ça, c'est vrai pour presque tout le monde, j'imagine. Pour moi, ça a été une leçon de vie, en fait, de m'écouter jouer du violoncelle. Et c'est très formateur, hein, parce que si on ne s'écoute pas, ne serait-ce que pour faire le montage d'un album, comme celui qu'on vient d'entendre, c'est clair qu'au début, c'est très confrontant, parce qu'on entend son propre son, pas forcément de la même manière qu'on l'entend quand on est derrière l'instrument, derrière le violoncelle. Donc oui, c'est sûr, c'est confrontant, mais du haut de mes 33 ans, maintenant, j'ai plus de maturité et je peux écouter ce jeune violoncelliste de 18 ans avec beaucoup, d'affection et d'amour.
Voilà aussi, voilà. C'est ça. Donc, tu es en paix avec ça oui, et tu comprends nettement pourquoi. Hier, tu étais à la Grande Bibliothèque avec une conférencière, psychologue, autrice, Rachida Azdouz et Chloé Dumoulin, la pianiste. En fait, c'était une espèce de conférence récital. Alors, tu donnais un récital d'environ 30 minutes après, mais c'était intéressant parce que en fait, la conférence portait sur cultiver l'intelligence humaine, littérature et violoncelle en dialogue. Et justement, à l'heure où l'intelligence artificielle s'invite partout, là, alors on dit toujours, bon, il y a une question qui se pose, quelle place pour l'intelligence humaine et comment la nourrir? Mais enfin, dans le cas de vous, les musiciens, je pense, évidemment, avec cette maturité, cette technique, cette virtuosité, ces émotions, évidemment, je pense que l'IA ne va pas remplacer ça du jour au lendemain, hein?
Ce serait difficile, en effet. Ce serait difficile. Je pense que les propos et la proposition artistique de cette conférence proposée par Rachida Azdouz, c'était brillant parce qu'elle est retournée à travers les siècles et s'est inspirée d'écrits, de romans de différents auteurs. Mais afin de cultiver une interprétation sur leur vision de l'intelligence humaine. Et ça, c'était fascinant. Donc, elle faisait un parallèle avec l'intelligence artificielle, avec tout ça. Mais ça, c'était absolument fascinant. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de jumeler ces textes, donc ces arguments, ces interprétations, à une proposition musicale, donc que ce soit mettons Camus qui par l'absurdité, ben on a pris un moment assez absurde dans la musique de Shostakovich par exemple, juste pour ne donner qu'un exemple, mais ça a été un processus artistique que j'ai adoré. Et Rachida, c'est une amie de longue date, donc d'être sur scène avec elle pour la première fois, j'ai eu vraiment un coup de cœur.
Et de toute façon, je pense que c'est un petit peu... En fait, tu t'entoures de gens que tu aimes beaucoup et puis tu as de belles collaborations comme ça avec plein de gens. Alors, bon, on va parler aussi... Bon, il y a eu le Festival Classica en juin dernier. Ça, c'était autre univers. C'était avec Denis Plante qui joue du bandoneon. Alors, on était avec l'ensemble Imusici aussi. Alors, vraiment, tu peux aller dans toutes sortes d'univers différents. Ouais. Tu as une belle collaboration aussi avec Denis Plante.
Ah, Denis, c'est une collaboration de longue date, en fait, qui a connu son premier concert, si je ne me trompe pas, en 2018 au Festival Classica. Donc, le Festival Classica, c'est drôle, à travers mes années de carrière, ça a été vraiment un espèce de fleuron de création et de rencontre, tout comme la rencontre avec Denis Plante, donc en 2018. Depuis ce temps-là, on a fait deux albums, des projets de tournée, des collaborations avec d'autres musiciens. D'ailleurs, on va être à la salle Bourgie le 17 janvier prochain pour un concert en trio avec Valérie Milo. Donc, un ensemble assez inusité de harpe, bandoneon et violoncelle. Mais ce concert-là au Festival Classica, c'était donc la première québécoise d'un concerto, un double concerto que Denis nous a composé donc pour bandoneon, violoncelle et orchestre à cordes. Ouais. Donc, ça a été mémorable comme expérience.
Bien, c'est ça qui est merveilleux, c'est le côté créatif aussi des musiciens. Alors, pas évident aussi de trouver du répertoire, parfois comme répertoire pour violoncelle et harpe, comme tu l'as fait avec Valérie Milo, on va y revenir. Il y a eu en 2026 aussi un album nommé au prix Juno avec la musique du compositeur Ayrat Ishmuratov et les violons du roi, c'est bien ça?
Oui,
et,
oui.
Ben, En fait, je veux parler d'Ayrat Ishmuratov parce que vous avez un petit peu le même mentor, au fond, Yuli Turovsky.
Tout à fait. Bien, en fait, Ayrat, je le connais depuis que j'ai 9 ans.
Oh
c'est
là
quand
là.
Même pas pire. Donc, j'ai commencé à étudier avec Yuli Turovsky à l'âge de 9 ans. J'ai baigné dans cette famille musicale, mais aussi profondément humaine. Qui était la famille Turovsky, donc Yuli, qui était mon professeur, mais aussi Eleonora, qui était violoniste, elle-même professeure de violon et d'alto. Donc, il y avait une famille, une communauté autour d'eux avec leurs étudiants, dont Ayrat, qui à l'époque était l'époux d'Elvira Mispakova, qui est une altiste très, très active.
Qui joue dans l'orchestre métropolitain.
Oui, très active sur la scène canadienne.
Exact. En fait,
Puis Elvira, c'est une grande amie à moi qui joue aussi un concerto sur cet album, donc d'Airat Ishmuratov et de sa musique avec les violons du roi. Donc, pour moi, Airat, de jouer sa musique, c'est vraiment un retour aux sources, en fait, parce que je joue sa musique depuis que j'ai peut-être 11 ou 12 ans. J'ai joué dans l'orchestre pour son récital de fin doctorat, alors qu'il dirigeait le Sacre du printemps de Stravinsky. Et je n'avais que 11 ans. Et j'ai décidé de jouer dans son orchestre. Incroyable. En tout cas, donc, ça fait longtemps
qu'on se connaît. Ça fait longtemps, c'est ça. Et bien, évidemment, mari et femme, Yuli Turovsky avec son épouse. Alors, ils ont bâti, évidemment, toute la transmission pour eux. C'était très, très important.
Exactement.
Et puis, bon, suite à son décès, tu as fondé aussi, en fait, le Quatuor.
C'est vrai. Oui, tout à fait. C'est un quatuor qui a été actif pendant quelques années. Malheureusement, c'était vraiment une question d'horaire des différents musiciens que ça n'a pas pu se poursuivre pendant des années à venir. Mais c'était une façon de rendre hommage justement à la famille Turovsky. Puis même si le quatuor Turovsky n'existe plus, ce lien et cette émotion qu'on ressent
demeure. Bien sûr. Alors, évidemment, c'est sûr que là, après ça, ben, tu es quelqu'un de très, très doué, là, il faut le dire. Je pense que tout le monde s'entend pour le dire. Alors, très jeune, hein, on avait reconnu en toi un grand, grand talent. Alors, c'est sûr que là aussi, il fallait te donner un instrument à la hauteur de ce talent. Alors, tu feras l'acquisition de ton fameux Stradivarius offert par la mécène Jacqueline Desmarais. Alors ça, ça a été un moment aussi important pour toi. J'ai vu ton papa t'accompagner partout pour évidemment avoir toujours l'œil sur le fameux Stradivarius.
Et c'était encore le cas hier là, à la pause de la conférence concert. On avait un moment où on échangeait avec le monde, mais là, je ne pouvais pas avoir comtesse, comme je l'appelle.
La comtesse, comme tu l'appelles, ton instrument.
C'est ça, papa était avec la comtesse.
Puis, d'accord. Donc, il accompagne la comtesse.
Oui, ouais, depuis mes 18 ans.
Il se fait compte pour la comtesse.
Exact.
Voilà. Alors ça a été évidemment marquant. Et bon, c'est sûr que ça va être une occasion aussi de rayonner à l'étranger. Puis là, il faut dire que quand même, tu es très jeune là, à ce moment. Là, puis tu es encore très jeune de toute façon. Alors, et puis là, tu vas être premier soliste en résidence de l'histoire de l'Orchestre métropolitain. Tu as quand même encore, là, ça fait pas longtemps, ça fait quelques années.
J'étais dans ma vingtaine.
Ouais, c'est ça. Et puis là, on va t'amener en tournée. Ça, c'est 2017-2018 dans ces eaux-là. Et puis ensuite, tu vas, bien sûr, là aussi dans ta formation, bon, tu es titulaire d'une maîtrise en interprétation à l'université de Montréal, mais tu as dit aussi que pour toi, ta carrière internationale, parce que tu vas aussi un peu partout aux États-Unis, mais enfin, le bilinguisme a été un atout pour toi. Tu as appris quand même jeune.
Oui,
et ça, c'est important même dans la vie d'un musicien.
Je pense que oui, parce que c'est sûr, si on veut voyager, travailler dans différents festivals, travailler avec différents musiciens, c'est sûr que c'est l'anglais qui revient beaucoup sur le plan international. Ça a été le cas depuis plusieurs décennies, n'est-ce pas? Donc oui, le fait d'avoir une famille très bilingue, autant chez mon père que chez ma mère, j'ai appris d'abord le français là, jusqu'à mes 5 ans. Et ensuite, à partir de 5 ans, ma mère m'a appris l'anglais et tout ça. Donc j'ai été et à l'école anglaise et à l'école française dans ma vie.
D'ailleurs, je pense qu'à l'école FACE, il n'y avait que de la place en anglais.
Oui, exact.
Alors,
tu connais bien l'histoire.
Oui, je connais ta petite histoire.
Effectivement, ma mère, elle a grandi en Colombie-Britannique, donc avait la possibilité de m'envoyer et en français et en anglais. L'école FACE, ça avait été un coup de cœur pour notre famille sur le plan de l'établissement, sur le plan du réseautage, de vraiment une communauté très, très humaine, très, très touchante. Et j'ai commencé là, mais il ne restait plus de place en français. Donc, ma mère s'est dit, si on veut l'inscrire à l'école FACE, on va commencer par l'inscrire en anglais. Puis ça a bien été. Puis pour moi, ça a été, je pense, un atout, effectivement.
Ouais. Alors, effectivement, oui, ça peut être très important pour un musicien qui veut faire carrière à l'étranger. Et bon, évidemment, quand tu t'en vas avec l'Orchestre métropolitain, là, tu vas visiter de belles salles de concerts en Europe. Et puis, c'est l'occasion aussi, quand tu voyages comme ça, ben, c'est l'occasion de faire de belles rencontres. Et puis, aussi, des fois, de parfaire ses connaissances avec d'autres violoncellistes qui sont quand même importants. On pense à Gauthier Capuçon, notamment en France.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu, après ma maîtrise, ben, au courant aussi de ma maîtrise, mais après surtout, j'ai passé beaucoup de temps en Europe, notamment avec Gauthier Capuçon, donc ce grand violoncelliste français. Il avait à l'époque ce qu'il appelait une classe d'excellence à la Fondation Louis Vuitton. Et c'était un lieu magique pour les personnes qui ont eu la chance de visiter
l'endroit
de la fondation. Là, il y a des expositions incroyables, mais juste le bâtiment en lui-même, là, d'une création de Frank Gehry, c'est incroyable. Donc,
c'est
de passer des mois là, déjà à parfaire ses connaissances, son jeu violoncellistique, si on peut dire. Là, ça, déjà, ça a été très inspirant. Et ensuite, j'ai fait des classes et des académies partout en Europe et aux États-Unis.
Et puis, juste un petit mot aussi, parce que à l'époque de Yuli Turovsky, il avait quand même fondé aussi l'Orchestre Nouvelle Génération.
Oui.
Alors, tu as même pu diriger, donc tu as touché aussi à la direction d'orchestre.
Yuli m'a commencé à la direction d'orchestre très, très jeune. En fait, j'avais 14 ans quand il m'avait demandé de diriger I Musici de Montréal. Donc, je ne peux pas vous dire que j'étais bien intimidé, mais il m'avait formé en direction très jeune. Ensuite, j'ai dirigé la série Jeunesse des Musici de Montréal pendant une couple de saisons. Et par la suite, effectivement, vers la fin de son parcours chez I Musici, il a fondé un autre orchestre, un peu à l'image des Musici qui, dans les années 80, avait été fondé avec ses étudiants de l'époque. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire en 2011, il a décidé de fonder un autre orchestre. Et aujourd'hui, l'orchestre existe toujours.
Existe encore,
c'est encore des bons amis, puis on a des projets à venir.
Quand même.
Mais c'est ça, c'est la direction d'orchestre, ça fait partie de ma vie. Bon, faute de temps, j'ai choisi de m'investir totalement en violoncelle pour l'instant.
Il faut se concentrer.
Mais qui sait
Mais
dans
non,
le
c'est
futur,
ça, tu es encore
sait?
Très jeune. Ouais. Là, évidemment, je vais t'amener sur tes collaborations. C'est sûr, on pense à Marie-Ève Scarfone, mais on pense aussi à Valérie Milhaud. Et là, on va écouter un extrait de vous deux sur l'album Transfiguration, qui a donné lieu aussi à un concert quand même, expérience assez particulier. On écoute ça. Absolument magnifique, mais on est ailleurs, Stéphane, hein, avec ce projet qui a été quand même important. C'était vraiment... alors, il y avait des images qui étaient, qui étaient diffusées au même moment que vous étiez sur scène à jouer comme symbiose l'un avec l'autre.
Effectivement, oui, c'était un projet assez expérimental qui nous avait un peu... piquer là, la curiosité, si on veut, en 2019. On a commencé à élaborer le projet. Il y a eu, évidemment, une pandémie, ce qui nous a donné beaucoup de temps libre, en fait.
Donc, vous avez pu être créatif.
Je pense que honnêtement, n'eût été la pandémie, je pense que Transfiguration aurait vu le jour, non en 2022, mais vraiment plus tard, parce qu'on s'est comme, donné là, avec notre temps libre, puis on a travaillé. Donc, c'est un projet qui a connu 3 ans de tournée, un album. Sur scène, il y avait 5 écrans superposés avec un projecteur vidéo, beaucoup de mapping vidéo aussi. C'était vraiment un grand projet de création, mais ça, déjà, Valérie et moi, on était des grands amis, puis on l'est toujours, mais ça nous a comme soudés,
propulsé.
Je sais pas. Ouais, absolument.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un coup de foudre musical et personnel entre vous deux. Bien sûr, vous avez collaboré plusieurs fois, et puis aussi, c'est joint Antoine Bareille pour un album également. Alors, ça a été un trio. Autre album enregistré à l'église Saint-Augustin de Mirabel à l'époque, mm-hmm. et puis sous étiquette Analecta, un trio pour violon, violoncelle et harpe. Alors vraiment, ça aussi, c'est toujours disponible. Ça vaut la peine d'aller entendre, bien sûr. Alors c'est vraiment toutes ces expériences-là réunies. C'est très riche, ça nourrit beaucoup. Et puis évidemment, vous êtes, Valérie et toi, vous étiez comme deux entrepreneurs en quelque sorte. Mm-hmm. Vous avez développé ces qualités-là parce que bien sûr, il n'y a pas que le travail de répétition chez soi tout seul. Alors, il y a plein d'autres choses aussi au niveau de penser à notre avenir, penser à des projets. Alors, ça nous amène dans des zones, à sortir de notre zone de confort.
Ah, c'est clair. Mais Valérie, elle a vraiment la fibre d'entrepreneuriat à cœur. Chez elle, c'est très fort. Ça l'a toujours été. Et même avant, moi, j'ai toujours géré mes propres projets en autoproduction. Bon, j'ai travaillé avec différents agents et tout, mais il y avait le côté production et création, ça m'a toujours intéressé aussi, tout comme
c'est
Valérie.
Ça. Alors, tu es multidisciplinaire, vraiment, tu t'intéresses à plein de choses.
Oui, ouais, des fois, peut-être qu'il faudrait que je me branche, dans le fond. Hein.
Oui, mais peut-être pas non plus, peut-être pas. Mais aussi, avec Valérie, je sais que vous avez joué aussi dans les CHSLD. Ouais. Ça, c'est aussi un bel engagement de votre part. Ça a été important quand même, une expérience que tu dis transformative.
Ah, tout à fait. Bien, en fait, Valérie a fondé en 2016 un organisme qui s'appelle Anémone 47. Et Anémone 47, qui était d'abord un OSBL culturel en création et en production de spectacles, est devenu en 2022 un organisme de charité. Un organisme qui a pour mission d'offrir un accès équitable à la musique dans toutes sortes de contextes. Donc oui, tu mentionnes notre projet Symphonie de soins, qui est un projet qui présente des concerts partout au Québec, avec bon nous-mêmes à la musique, mais aussi on engage beaucoup de musiciens, de collègues, de musiciens de la relève, pour présenter ces concerts-là un peu partout. Donc là, aujourd'hui, on est rendu, on forme une co-direction générale et artistique, Valérie et moi, de cet organisme, donc qui s'appelle oui. Anémone 47, qui nous occupe beaucoup, mais qui, en fait, qui nous rend, je trouve, des artistes complets, des artistes aussi très, très conscients de l'impact que peut avoir la musique sur les différentes communautés.
Tout à fait. Alors, évidemment, là, on va se laisser tantôt avec la musique, c'est-à-dire que le deuxième album que tu as fait avec Marie-Ève Scarfone,
oui.
qui est une pianiste, en fait, et c'est le deuxième album.
Oui, tout à fait.
Alors, et puis, évidemment, vous étiez, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un d'intéressant parce qu'elle est à l'Opéra de Zurich présentement.
Absolument,
et
oui.
Et elle est accompagnatrice, c'est une pianiste.
Dans le fond,
ouais.
elle est coach vocale.
Coach
vocale à l'Opéra de Zurich et aussi la spécialiste en diction française à l'Opéra. Donc, elle s'occupe depuis quelques années maintenant. Elle s'est installée à Zurich, à l'Opéra. Et j'ai la chance de la visiter des fois. Donc,
c'est merveilleux.
Ça fait du bien.
Alors, parfait, c'est une bonne idée. Alors là, tu as énormément de dates qui s'en viennent quand même. Tu disais que tu avais un petit congé là, fin août, mais il y a
ouais,
plusieurs
mais pas
dates
très longtemps.
Pour l'effet
ouais,
Lisa.
C'est ça. On repart l'effet Lisa.
Exactement.
À Québec pour 4 semaines de représentation à la Bordée. Sinon, il reste quelques représentations
à
Victoriaville.
À Victoriaville,
en fait,
je me trompe. Ouais.
Puis sinon, à partir de janvier prochain, ça prend la route. Donc, on commence par 2 représentations au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Et sinon, on va dans à peu près toutes les villes du Québec jusqu'en septembre 27.
Et oui, alors c'est vraiment un projet intéressant. Et ta présence aussi avec celui qui a conçu la musique. Enfin, c'est une présence qui est aussi très importante dans le, dans le spectacle.
Tout à fait. C'est un projet qui m'emballe. D'abord, la musique de Richard Desjardins et les paroles de Richard Desjardins. Moi, un amoureux des mots, là, de la langue, depuis toujours, je capote en bon français.
Oui, avec raison.
C'est quelque chose. Oui. Et après, je pense que la production, l'offre artistique a vraiment quelque chose de très pertinent, de très actuel. Donc, j'invite tout le monde à venir voir ça.
Bon, alors, c'est le pianiste, les arrangements du pianiste Marie, c'est-à-dire pas Marie, mais Marc-André Perron, plutôt.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, vous êtes tous les deux sur scène. Il y aura aussi à Drummondville, concert avec l'Orchestre symphonique de Drummondville. Il y aura aussi à l'Anglicane de Lévis, la voix du violoncelle. Ça, c'est le 22 novembre, enfin. Et puis, plein d'autres choses à suivre sur ton site Internet. Stéphane Tétrault, tu es un musicien au talent exceptionnel, d'une immense générosité, d'une grande humilité aussi, sensible, attachant. Tu fais l'unanimité, là, pour qui a la chance de te côtoyer. Merci d'avoir pris le temps de venir ici malgré un été très chargé.
Merci Chantal, merci pour tes mots, ça me touche beaucoup.
Merci infiniment. C'est tout pour aujourd'hui. Ici Chantal Lavoie. On se retrouve pour une autre émission la semaine prochaine. L'émission C'est classique est diffusée tous les vendredis à 11h30 et 18h30, le samedi à 16h et le dimanche à 8h30 ou en rattrapage, quand vous le souhaitez, sur le site de Canal M dans nos émissions. À bientôt!